Brian Michael Bendis, tout fan de Marvel, connaît ce nom. Sa réussite est telle qu'il a pris à lui seul le contrôle de la franchise la plus lucrative de la Maison des Idées depuis des années. Cependant, l'annonce a bouleversé le monde entier il y a quelques semaines. Il quitte les Vengeurs. Ce soir, Comic City a enquêté pour vous. Nous allons vous faire découvrir les secrets de cette réussite, mais aussi les problèmes que cela a engendré et les raisons qui ont motivé ce départ. Une enquête de longue haleine dans laquelle nous avons risqué nos vies et qui nous a emmenés au cœur de Marvel.
Bonsoir et bienvenue sur un nouveau enquête exclusive au cœur de Brian Michael Bendis.
Voilà, là ça va pas le faire. Non.
Nous allons entrer en lui.
Je m'aventure pas là-dedans.
Et nous regarderons grâce à une coloscopie hyper intrusive comment il fonctionne.
Ah bah dis-moi, ça commence bien. On est fidèle à notre réputation, c'est bien.
Voilà, toujours en dessous de la ceinture. Hein.
Voilà, à l'occasion du départ de Brian Michael Bendis, on s'est dit qu'il était peut-être temps de faire un spécial.
On lui la fout bien profond. Hein,
ça fait plusieurs années qu'il nous l'a mis bien profond, donc on a le droit de lui rendre l'appareil.
Voilà, ce n'est que justice. Alors, on va regarder un petit peu en détail son run, puisque bah malgré tout, qu'on aime ou qu'on déteste, on pourra pas se le cacher, Brian Michael Bendis a influencé les Avengers, a rendu une franchise qui était en perte de vitesse hyper lucrative, la preuve avec le film qui a quand même engendré plus d'1,5 milliard rien qu'au cinéma. C'était pas donné à tout le monde cette réussite. Finalement, ça fait 8 ans qu'il est sur la franchise, et à l'occasion de son départ, on va profiter de ce petit moment pour analyser un petit peu ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de moins bien, ce qui a fonctionné, ce qui ne l'a pas. Et puis aussi plein d'autres choses. Hein.
Mais pourquoi ce succès ? Enquête. Je vais rester en mode journaliste à la con.
Ouais. Parce qu'il y a un autre mode après journaliste à la con.
Mais je sais même pas si ce sont réellement des journalistes. Je me demande si c'est pas juste des gens qui font des voix off.
Ouais, c'est des robots.
Ça va leur faire plaisir à tous ces gens qui chargent du travail dans ce milieu d'entendre qu'ils sont des robots. Donc avec moi vous avez reconnu les voix de Sam et de Mister Anebony.
Oui bonsoir, bonjour. Bonjour même.
Nos experts est-ce Brian Michael Bendis?
Oui, ça fait 8 ans qu'on le subit, donc à force on connaît.
C'est vrai qu'on en a lu beaucoup.
Ouais. À notre corps défendant parfois.
Pas que du Avengers d'ailleurs, mais bon, puisque c'est le sujet, on va rester là-dessus.
Oui, bah, on a fait de l'arithmétique hier avec Steve pour essayer de définir le nombre d'épisodes qu'il avait pondu jusqu'alors et à combien il serait quand il quitterait le titre. Et on arrive aux alentours de 250, ce qui en fait juste le run le plus long de l'histoire des Vengeurs. Voire, je pense, l'un des plus longs de l'histoire des comics, en fait.
Oui, mais par contre, on rigole quand on sait que ça fait que 15 arcs.
Ah, oui. Ça le fait moins, là, dit comme ça.
Parce que, mais bon, voilà, hein, le monsieur est quand même connu pour sa grosse décompression.
Très, très grosse décompression.
Mais on va reprendre les choses à la base. Donc déjà, dans quelles circonstances reprend-il ce titre ?
Eh bien, Sam, tu vas nous éclairer.
Oui, donc en fait, Bendis arrive en 2004 sur le titre, alors que les Avengers connaissent une petite crise d'instabilité depuis plusieurs années, puisque... Après la reprise du titre par Kurt Busiek à la fin des années 90, on s'en souvient tous avec le Heroes Return.
Return.
Je returne. en l'espace de quoi, 2 ans, il a eu 2 successeurs avec Jeff Jones. Oui, Jeff Jones a écrit du Marvel. Sur une très courte période, puisqu'il a, je crois qu'il a écrit 15 épisodes ou quelque chose comme ça. Et il a été suivi après par Chuck Austen sur des épisodes qu'on veut tous oublier. Et d'ailleurs, qui ont tous été oubliés. Donc ça.
C'était l'époque de la.
Je me rappelais plus, effectivement, Chuck Austen a repris le titre juste avant Bendis. Je croyais que c'était passé de Jeff Jones à Bendis. Ça aurait été beau d'ailleurs.
Non, il y a eu Chuck Austen, un peu comme sur les X-Men. Mais c'était à l'époque de la double numérotation, pour ceux qui s'en rappellent. On avait donc Avengers numéro 84/499, par exemple.
Et de mémoire, Jeff Jones sur Avengers, t'es pas très très inspiré, quoi. Et Olivier Coipel était au dessin, d'ailleurs.
Oui, de Red Zone. Moi, j'avais beaucoup aimé Red Zone, je sais que je suis... Je suis pas le seul sur Comic City, mais moi, j'ai beaucoup aimé.
J'avais trouvé ça très convenu, au fait. Red Zone, en gros... Même dans le titre, tu sais déjà qui est la menace.
Moi.
Et ben, je vais vous faire marrer, moi je l'ai jamais lu.
Bah, bah, devine qui est la menace de Red Zone.
Je sais pas, comme ça, Red Zone. Allez, Éric le Rouge?
Non.
Oh non. Non, Red.
Bon, je sais pas, Magneto peut-être?
Non.
Non, alors là, comme ça, le Scarlet Witch.
Mais il y a Red dans le nom de la personne.
Red Tornado? Non, Red. Oui, ça s'appelle une claire. Non, là, comme ça, je ne vois pas, honnêtement.
Bah, Red Skull!
Ah oui, c'était tellement con que j'ai même pas vu.
Bah, moi, je l'avais pas vu venir et je trouve ça très bon.
J'avais vu venir dès le début, je sais pas pourquoi, c'était vraiment, il y avait un faux, ambassadeur ou je ne sais pas quoi, enfin, une espèce d'homme politique.
Non, qui était secrétaire à la défense. Le secrétaire à l'intérieur ou à la sécurité intérieure ou un truc.
Genre. Voilà, c'est ça, ouais. Et puis au fait, c'était Red Skull, qui se cachait sous ses traits ou un truc dans le genre. Enfin, c'était très très convenu, j'avais trouvé, voilà.
Bah, en fait, moi, c'est le seul arc de Jones sur titre que j'avais bien aimé. Parce que les autres étaient pas, voilà. Bon, je crois qu'ensuite, c'était, Search for, Shulk, qui me gonflait, comme pas permis, et, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, son premier arc avec, Kieron Dwyer au dessin, qui était très moche. Et qui était pas très bon.
Ouais, tout ça, ça me dit vaguement quelque chose, effectivement. Je les ai lus à l'époque, mais globalement, c'était pas terrible. Et les Avengers étaient en bas de classement. Hein. Personne ne les lisait finalement à côté de Spider-Man, à côté des X-Men. Du coup, ils ont pris une décision radicale, c'est-à-dire de relauncher le titre, déjà d'une part.
Alors que le titre arrivait à son 500e épisode.
Oui, alors ils l'ont fait quand même, le 500, en fait. Ils ont relancé.
Juste pour le rechuter 3 épisodes plus tard.
Ben, oui, en fait, le début de Disassembled commence au numéro 500, ce qui était quand même un chiffre marquant.
Ouais. Et donc, pour ce relaunch, bah, on met Brian Michael Bendis et David Finch, quand même.
En fait, tout part d'une réunion éditoriale, d'ailleurs, qui est un peu rentrée dans la légende. C'était l'époque de Bill Gemas, à l'époque. qui reste lui aussi dans la légende.
Je suis
concerné par le titre et il y avait Mark Millar durant une espèce de retraite éditoriale avec Joey Quesada, Bendis, et Millar lance l'idée, pourquoi on ne ferait pas des Vengeurs la Justice League de Marvel, c'est-à-dire le titre qui regroupe les plus grandes figures de l'univers Marvel, dont Wolverine et Spider-Man.
Ouais, un petit peu une Avengers All-Star, quoi.
Voilà. En fait, parce qu'il faut bien le dire, pendant des années et des années, notamment au début des années 90, les Vengeurs étaient composés de persos de quatrième ordre dont tout le monde se foutait.
Mais on avait des grosses franchises, mais qui restaient chacun dans leur coin. On avait d'un côté les X-Men, on avait de l'autre côté Spider-Man, on avait les Vengeurs. C'était vraiment des mondes séparés et ils se rencontraient qu'à l'occasion de crossover. Point.
C'était vraiment extrêmement cloisonné. Vraiment, on avait des mondes différents. Voire des dimensions différentes, surtout pour les X-Men qui, dans les années 90, avaient pris une telle ampleur, c'était une espèce d'univers à l'intérieur de l'univers Marvel.
Ouais, c'est vrai que jusqu'en 2004, finalement, on pouvait lire certaines franchises Marvel sans en lire d'autres. Et maintenant, ça devient quasiment impossible de pas être concerné par tout ce qui se passe dans l'univers Marvel.
Surtout, on pouvait ne pas lire les Vengeurs, parce que c'était absolument pas central.
Ouais. On y reviendra, je pense, tout à l'heure, mais c'est vrai que, effectivement, aujourd'hui, lire Marvel sans lire les Vengeurs, ça relève d'un pari difficile.
Ouais.
À moins de lire des séries de seconde zone.
À moins de vraiment se concentrer encore, allez, à la rigueur, Spider-Man reste toujours plus ou moins cloisonné dans son titre, puisque avec Spider-Island et compagnie, finalement, il est assez détaché. Mais bon.
Bon, enfin, il fait quand même appel aux Vengeurs, notamment dans Spider-Island. Enfin, si tu sais pas qu'il fait partie des Avengers ou qu'il a fait partie des Quatre Fantastiques,
bah,
tu rates des choses, quoi.
Ouais. Enfin, tu le vois dans son titre, quoi, mais bon, là.
Et Avenging Spider-Man, c'est quasiment un Spider-Man team-up, en fait. Spider-Man team-up, en fait.
Bien sûr.
Donc, en fait, quand il arrive sur le titre en 2004, donc, ce qu'il fait, c'est que symboliquement, en fait, il fait exploser l'équipe dans le fameux arc Disassembled.
De bien belle manière, surtout, puisqu'on a quand même une Scarlet Witch qui pète les plombs, qui tue des membres, enfin...
Et en fait, le plus drôle, c'est qu'à l'époque, tout le monde l'avait accusé de pas respecter la continuité, sur notamment celle de Scarlet Witch. Mais en fait, si on lit une vieille série Avengers qui était West Coast Avengers, on se rend compte qu'il y avait déjà les prémices de Disassembled. Ça, c'était déjà dedans, en fait. Le fait que la sorcière rouge pète les plombs, c'était déjà là.
Ouais.
Donc en fait, ça ne sortait pas vraiment de nulle part. Et on voyait que Bendis, il connaissait bien ses classiques.
Mais c'était un travail propre qu'il avait rendu, malgré tout.
Ouais, je suis pas super convaincu par la fin de Disassembled, mais là, c'était pas vraiment sa faute. C'était plus des interventions éditoriales sur d'autres titres qui l'ont l'ont privé en fait de certains personnages.
Oui, parce qu'ils ont profité de l'occasion quand même, il faut le rappeler aussi, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, de ce crossover pour lier toutes les séries à thème Vengeur et les inclure dans cette espèce de gigantesque mini-event qu'est Disassemble. On avait du Thor Disassemble, Captain America Disassemble. Enfin, toutes les séries Avengers étaient reliées dans ce Disassemble.
Oui, ils avaient totalement déconstruit au fait les franchises, enfin ces personnages-là, pour ensuite les reconstruire tous ensemble. D'ailleurs, dès que Bendis est arrivé sur Avengers, des séries comme Captain America, Iron Man, dont tout le monde se foutait, ont commencé à avoir un regain d'intérêt auprès des fans. Et on a eu des gens comme Brubaker qui sont arrivés sur Captain America, Warren Ellis était sur Iron Man. Ensuite, il y a eu un petit passage à vide, mais Fraction, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, a quand même bien relancé le personnage depuis quelques années, mais etc., etc.
C'est-à-dire on peut remarquer déjà, avec Disassemble, qu'il y a quand même des prémices au style Bendis. C'est-à-dire que une histoire qui est dans Avengers va avoir des répercussions sur tous les membres des Avengers, justement.
Ce qui n'était pas le cas avant.
Oui, et puis même sur tout l'univers, finalement. C'est un petit peu les Avengers qui vont faire la pluie et le beau temps de l'univers Marvel. Et deux Avengers Disassemble arrivent donc à House of M, le gros event.
Avant arrive New Avengers.
Avant arrive New Avengers, oui, quand même.
C'est vrai, ouais.
Qui est quand même un sacré événement pour les gens qui lisaient les Avengers avant, ou ceux qui justement ne le lisaient pas parce qu'ils trouvaient ça trop ringard. D'un seul coup, les Avengers devenaient hype.
Parce qu'en fait, on se rendait compte que vraiment tout le monde pouvait y aller, puisque maintenant il y a... c'était une espèce de barrage en fait qui sautait à ce moment-là. Puisque l'introduction de Spidey dans le titre, ça faisait des années et des années qu'on en parlait. Je sais que pendant les années 90, les éditeurs avaient un peu caressé l'idée très souvent, dans les années 80 aussi, mais personne n'avait vraiment osé le faire.
Je me rappelle d'ailleurs d'un épisode assez ridicule à l'époque de Kurt Busiek, où il avait réorganisé les épisodes, enfin les équipes, je veux dire, des Vengeurs, et où t'as à peu près 80 Vengeurs qui passent par là, et puis il y a des discussions, est-ce qu'un tel est vraiment un Vengeur, est-ce que tel autre est plus un Vengeur que telle autre personne. Enfin, ça devenait vraiment ridicule de savoir qui était un Vengeur, qui ne l'était pas, etc., etc.
Mais surtout, sur Spidey, c'était vraiment ridicule, parce que je crois que c'était dans le même épisode, où grosso modo, le perso disait à Cap, écoute, moi je peux pas rester, j'ai trop de problèmes. Et Cap lui répondait, oui, vas-y, va régler tes problèmes judiciaires. Donc on le voyait sortir de la salle. C'était complètement con.
Oui, je crois que... Exact. Non, mais il y avait plein de trucs comme ça, et ça devenait vraiment ridicule, quoi, cette notion de Vengeur. Et là, vraiment, Bendis remet les compteurs à zéro. Donc, qui veut devenir Vengeur? Il suffit au fait qu'il soit un super-héros pour en faire partie, quoi. C'est aussi simple que ça.
On voit qu'il y a quand même certains personnages qui sont appelés, mais qui refusent le titre, comme Daredevil, par exemple, qui lui demande à sortir du premier arc, puisque rappelons que ce premier arc se passe justement sur la grosse prison où tous les super-vilains...
Pas tout, c'est les deux premiers épisodes uniquement.
Grosso modo, enfin, il y a quasiment tous les super-vilains qui sont dans cette prison-là, qui se retrouvent libérés. Et du coup, on a une espèce de gros chamboulement, et tous les héros arrivent à la rescousse. Ça va les emmener en Savage Land, et puis à partir de là...
Et ça rappelle Loki, pas Loki d'ailleurs, je dis n'importe quoi, ça rappelle un petit peu aussi la formation des... Enfin si, la première formation de
Loki,
la première
équipe.
Quoi. Ouais. Et voilà, donc c'est un petit peu une réminiscence de tout ça, mais là où je voyais que Bendy c'était quand même moins apte à servir de la continuité que certains autres auteurs, c'est que par exemple dans cette évasion du raft, bon c'est qu'un détail, on va me dire, mais... Par exemple, je me rappelle qu'il y avait un méchant qui s'appelle le Puzzle, qui a pas de super pouvoir, et qui là arrive à casser le bras de Spider-Man.
Oui, ça a fait pas mal parler à l'époque.
Et tu te demandes, mais c'est quoi ce Bint, quoi? Spider-Man est quand même super puissant, et là, t'as quand même un mec qui est un être humain à la base, qui arrive à lui péter le bras. Et de tous ces petits détails, au fait, Bendis va aussi se forger une sale réputation de mec qui, finalement, connaît pas vraiment la continuité sur le bout des doigts, c'est-à-dire qu'il connaît les gros events, mais il connaît pas vraiment les spécificités de chaque personnage, au fait, qu'il utilise. Et donc,
j'ai toujours eu l'impression qu'il écrivait Spidey, même dans Ultimate Spider-Man, comme assez peu puissant, au fond, quasiment pas, quoi. C'est-à-dire qu'il a quelques pouvoirs, mais au niveau de la force, c'était jamais très, très élevé.
Remarque, dans Ultimate Spider-Man, c'est un peu normal, il fait ce qu'il veut, à la rigueur. Peut-être qu'il est effectivement...
Même dans l'univers Marvel, classique, on va dire, je sais pas. C'est un peu bizarre.
Ouais, enfin, y a quand même aussi un truc qu'il faut pas oublier, c'est que là, l'éditeur aurait dû faire quelque
Ouais.
chose.
Mais bon,
Parce
c'est
qu'il
pas la
y
première
a un
fois qu'on va se
éditeur,
plaindre
il n'est pas
d'éditeur
là
qui
pour
fait
rien.
beaucoup.
L'éditeur, il est là aussi pour corriger tous ces petits problèmes, que ce soit de continuité ou de non-respect des personnages.
Enfin, ça fait des années que, après, on en a eu 30 000 des exemples comme ça, hein, où l'éditeur, on se demandait où est-ce qu'il était, s'il y avait même encore un éditeur, quoi.
S'il lisait le truc, en fait, s'il lisait l'épisode, surtout.
Mais
Merci de lire le scénario.
non, mais peut-être est-il aussi victime de son succès et que bah voilà, on lui fait tellement confiance que bah même s'il y a une erreur, on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, c'est qu'on relit pas, parce que c'est du Bendis, on le relit pas, on peut lui faire confiance.
Ouais.
Et ça peut être aussi un des problèmes inhérents à son succès, finalement, de n'avoir personne pour le corriger au cas où il y aurait un problème.
Bon, une série quand même qui démarre extrêmement bien, notamment sur toute la première année, en fait, qui est une espèce de recrutement général sur 15 épisodes.
Oui, ouais. Alors ça c'est déjà le premier arc dans la construction, ça me rappelle quand même vachement un truc tout récent. Ça me rappelle le premier arc de Justice League des New 52, où finalement t'as quasiment un nouveau membre qui arrive à la fin de chaque épisode.
Oui, mais c'est classique maintenant, dans la
Ouais.
constitution des équipes, de faire ça, un membre par épisode, en fait.
Mais là où Marvel était quand même assez intelligent à l'époque, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait des Avengers la colonne vertébrale de tout leur univers. Et ce qui fait que quand tu lisais Avengers, t'avais vraiment envie d'aller voir un petit peu les séries des autres personnages. Avant, c'est vrai que je lisais pas Cap, je lisais pas Iron Man, je lisais pas Thor. Et j'ai commencé à m'intéresser à ces personnages. Alors c'est vrai que Thor, en plus, je dis des conneries puisqu'il n'était pas là.
Oui, il y a eu une pause sur Thor pendant 2 ans, je crois, jusqu'à ce que JMS reprenne le titre.
Bah, c'est-à-dire
Bah,
qu'en fait, ils
Ragnarok,
ont...
hein.
Ouais, Ragnarok, et puis ils ont mis, en fait, à la place de Thor, je dirais, le remplaçant, c'était un petit peu Sentry, quoi. C'était un petit peu le mec surpuissant, on savait pas trop de quelle nature il était, est-ce qu'il était d'une nature mystique, divine, voilà,
Bah, c'était l'occasion
scientifique.
d'avoir un Superman dans l'univers Marvel, hein, tout simplement.
Ouais.
Bah, surtout, ce que fait, je dirais, Bendy sur sa première année, en fait, sur les Vengeurs, c'est qu'il va briser beaucoup de cloisonnements qu'il y avait chez Marvel. Donc, du côté des héros, avec l'introduction de Spidey et de Wolverine, mais aussi de Luke Cage, qui sera, on peut le dire, quasiment l'avatar de Bendy sur l'ensemble de son run, en fait. Il est là
Luke
dès le
Cage
début
et
et jusqu'à
Jessica
la fin.
Jones.
Voilà.
Parce qu'il faut rappeler aussi, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien la carrière de Bendis, qu'avant d'écrire Avengers, il avait écrit la série Alias, qui était centrée sur Jessica Jones, puis The Pulse, qu'il écrivait conjointement avec New Avengers.
Qui était très bonne d'ailleurs, la série Alias.
Et c'est là que, bon, il a prouvé son amour pour ces personnages-là et qu'il les a réutilisés avec tant de d'acharnement peut-être même, je dirais, parce que c'est vrai que au bout d'un moment, ça nous gavait un petit peu tous, hein. Je crois qu'on est tous d'accord. Jessica Jones et Luke Cage, commence
Bah, moi,
à
Luke
nous
Cage,
sortir tous par les yeux, quoi.
ouais.
Bah,
C'est pas Luke Cage,
c'est-à-dire
moi
que...
c'est un personnage que j'adore. Le problème, c'est que les histoires tournent un peu en rond depuis un moment. Mais on en parlera tout à l'heure.
Ouais, enfin voilà. Oui, gardons ça pour tout à l'heure, puisque au fait,
Et en fait,
ça
ce que
va.
je voulais finir mon argument de tout à l'heure, c'était qu'il avait décloisonné sur les héros, mais aussi sur les adversaires des Vengeurs. Puisque dans le premier arc, on a Electro, qui est normalement un ennemi de Spidey, puis il va en Terre Sauvage, et ils vont rencontrer les Mutés, qui sont en général plus des persos affiliés aux X-Men, notamment Sauron. Donc on voit qu'il va vraiment chercher partout dans l'univers Marvel pour essayer de nourrir son titre.
Oui, bah, d'ailleurs, il élimine Sauron, tu fais bien de le dire, et il élimine aussi Carnage,
Il
par
l'élimine
exemple.
pas, je crois, puisqu'il pompe le facteur autorisateur de Wolverine. Donc il guérit, en fait.
Non, attends, rappelle-toi, c'est Sentry qui le charcute dans l'espace.
Non, ça, c'est
Ça,
Carnage.
pour Carnage, oui.
Ah oui, d'accord, mais Sauron, il se prend une balle dans la tête des
Ouais.
agents du...
Mais comme il avait absorbé le facteur autorisateur de Wolverine, en fait, il s'en sort.
Ah d'accord, bah, je savais pas, tu vois, après toutes ces années...
Ouais, ça commence
D'accord.
à faire loin, hein. Faut penser que c'est 2005 aussi, hein.
Ouais.
Bon, c'est
Ouais.
vrai qu'on
Il faut
les a
avoir de
peut-être
mémoire.
revus depuis, mais enfin, c'est pas une lecture que l'on fait toutes les semaines,
Si,
quoi.
si. Tout
Donc, en fait,
fan de
à partir...
comics doit de relire absolument tout le run de Bendis depuis le début chaque semaine. Et chaque semaine, donc il en aura un peu plus à lire.
Et en fait, ce qui est, je dirais, très fort, c'est que même quand il réintroduit des éléments traditionnels, comme un des vilains des classiques des Vengeurs, qui sont le mec avec la barre à mine, là.
Oui,
Le...
le Wrecking Crew, ah, j'arrive même pas à le
Voilà.
dire, hein,
Le
c'est mon
même là,
métier.
il arrive assez bien à le moderniser, puisqu'on le voit dessiné par Steve McNiven, et moi je trouvais que ça le faisait à l'époque.
C'est pas convaincu.
Avis mitigé de Steve.
Oui, non, si, si, si. Mais c'est vrai que j'ai pas parlé très fort, j'ai un peu mal à la gorge. Hein.
Ah, d'accord.
Ce qu'on peut voir aussi, dès le début du titre, et même un petit peu avant, c'est que Bendy s'intéresse, comme on l'a dit, aux Vengeurs, au monde extérieur, mais essaye aussi de ramener dans le giron des Vengeurs tout ce qui a attrait à l'espionnage dans l'univers Marvel, et notamment le Shield, qu'il avait mis en scène, notamment dans l'event, enfin la mini-série Secret War, qui est une sorte d'event finalement, et qui se passait tout ça à peu près au début de New Avengers, et qui va modifier les relations qu'il y a au Shield. Nick Fury va disparaître, et puis
Maria Hill arrive,
voilà, et qui sera aussi un membre qu'on verra souvent passer dans les histoires des Avengers.
Autre élément, vraiment, il a vraiment, je suis d'accord sur le Shield, parce qu'avant c'était une espèce d'ailleurs d'organisation un peu ringarde, vraiment dépassée, toujours dans les mêmes trucs et on s'en foutait un peu. Et là, ça prend une ampleur beaucoup plus importante, beaucoup plus, vraiment ouais. au premier goût du jour.
Bah, il le remet au centre de l'univers Marvel et puis il le remet vraiment à sa place. Avant, le Shield, effectivement, on pouvait passer outre, quoi. On s'en fichait. À la rigueur, c'était même les fans hardcore qui allaient s'intéresser à ce truc-là, et les autres, ils allaient même pas savoir ce que c'est exactement le Shield. Là, franchement, on pouvait pas. Enfin voilà, quoi. Le Shield, c'est vraiment le. C'est eux qui contrôlent ce qui se passe un petit peu dans le monde, quoi.
Ouais. Et je voudrais aussi m'attarder sur une idée vraiment centrale du run de Bendis qu'il a introduite lors de son second arc sur New Avengers, qui sont les Illuminati, qui ont une espèce de, on va pas dire d'organisation, mais de réunion des principaux leaders du monde supérieurique Marvel. Donc on voit Tony Stark, Charles Xavier, Black Bolt, des Inhumains, Namor et Doctor Strange qui se réunissent pour discuter des différentes menaces qu'ils rencontrent, s'échanger des informations et on l'apprendra plus tard, péter des gueules.
Ouais, ce qu'on apprend, c'est surtout que ça fait des années, quoi.
Voilà, oui.
C'est pas nouveau. C'est pas un truc comme ça qui arrive
un
maintenant.
Un peu de retcon.
Et oui, ce sera une des premières, d'ailleurs. Ce sera une des premières d'une longue série de retcon qu'aura fait Bendis, finalement. Parce qu'il aura fait pas mal de retcon sur son passage.
Bah, en réalité, sur la première année, il remodèle totalement l'univers sans qu'on s'en rende vraiment compte. Il remodèle vraiment l'univers Marvel à sa convenance, ce qui va lui permettre de placer un petit peu tous les gros events qui vont toucher l'univers Marvel par la suite.
Les Illuminati sera aussi le moyen pour lui de s'attaquer au dernier monde qu'il n'avait pas encore touché, le monde magique. Et c'est à partir des Illuminati et l'arrivée de Doctor Strange dans ce groupe que Doctor Strange prendra une part beaucoup plus importante dans les New Avengers.
Mmh. Parce qu'avant, c'était pas vraiment un personnage associé aux Avengers, il me semble. C'était plus Spidey qui rencontrait fréquemment.
Qui était en roue libre, en fait, parce que pas grand monde savait quoi faire de lui. Un personnage un peu trop puissant. Du coup, c'est le problème avec tous les personnages trop puissants. On a le même problème avec Superman, on a eu le même problème avec Sentry, pour rester dans l'univers Marvel. Ouais. On ne sait pas quoi en faire. Ouais. On peut pas le reposer de menaces, vraiment, qui tiennent la route. Ou alors, les gros events que l'on nous sort paraissent tout petits en comparaison. Et donc, du coup, comme on ne sait pas quoi en faire, on les utilise pas.
Ou bien alors c'est eux qui deviennent la menace, quoi.
Ou c'est eux qui deviennent la menace, effectivement.
En tout cas, pour la première année du titre, on a divers arcs qui ont pas toujours la même structure, qui sont plutôt réussis dans l'ensemble, Et le rythme est pas mal. Bon, la grosse complainte, finalement, ça reste que cette équipe se forme. Enfin, m'aidez-moi à se former, quoi.
Bah, elle met plus d'un an, en fait. Hein.
Ouais.
Puisque le dernier personnage qui est vraiment recruté, c'est Ronin. La fin de l'épisode 13. Donc,
Mais je sais pas si plusieurs épisodes ne sont pas sortis, s'il n'y a pas eu deux épisodes par mois, par moment.
Si, il me semble, oui. Il me semble.
Je sais pas si la première année faisait 12 numéros ou pas 16, quoi, par exemple. Un truc dans le genre.
Cette première année nous donnera les bases. Ce sera quasiment à 100 fautes, hein, parce qu'on peut, on peut être honnête, c'est quasiment à 100 fautes pour cette première année. Mais on aura aussi les premiers problèmes composé Bendis, c'est la décompression.
Totalement, 6 parties.
À outrance.
Ouais. 6 parties, 4 parties, 4 parties, je crois, un truc dans le genre.
Non, 3 parties pour le dernier. Donc ça allait vite, mais franchement, sur le dernier arc Rodin, il aurait pu aller plus vite. Hein.
Oui, mais enfin, même si c'est un arc en 3 parties, ça paraît peut-être pas long, mais si l'histoire aurait pu être racontée en un numéro, ça reste de la décompression.
Ouais. Non, je confirme. Bah,
C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on a connu les années précédentes, par exemple, quand on voit le run de Kurt Busiek, où le mec te faisait ça en une histoire, quoi. Vraiment, c'était très long à lire un épisode écrit par Kurt Busiek.
Ouais.
Et là, là, c'est le jour et la nuit, quoi.
Bah, en 10 minutes, tu arrives au bout de l'épisode. Hein.
Exactement, ouais. Alors, c'est très bon à la lecture, c'est fluide, c'est agréable à lire. C'est vraiment le point fort de Bendis. T'as l'impression plutôt de mater une série télé, mater un film. Enfin voilà, c'est vraiment de l'action. C'est enfin la narration est vraiment fluide. Mais par contre, c'est tellement décompressé que bah, pour avoir une histoire complète, t'es obligé de dépenser 4 fois plus.
Et qu'à sur TPB.
Ouais. Et on rentre à fond effectivement dans la période du TPB quoi.
Ouais, mais c'est tout est décrit pour ça, tout est prévu pour ça.
Même la présentation de l'équipe à la presse prend 2 épisodes en fait. C'est l'épisode 14 à 15 dessiné par Frank Cho.
Mais
pardon.
Ouais, non, mais j'allais dire très bons épisodes, et je me rappelle notamment du coup de Jameson qui, tu sais, on pense qu'il, bon, voilà, il va admettre que Spider-Man est un mec super sympa puisque maintenant il fait partie des Vengeurs, et pas du tout. Donc voilà, ça m'a bien fait marrer. Quoi.
Ou le coup de la référence à Green Day pour pour la chanson.
Ah oui,
ça me faisait marrer ça.
Ça me dit quelque chose, mais de toute façon, voilà, il y avait quand même pas mal de bonnes idées. Après, il va s'attaquer à un morceau qui est l'affaire Xorn.
Bah, en fait, ça, il faut parler de House of M. D'abord, puisque c'est la conclusion de sa première année qui va changer l'univers Marvel tout entier.
Voilà, on voit que son run a énormément de succès. Les Vengeurs vendent comme pas comme jamais, parce qu'on n'est plus aux chiffres qu'on avait dans les années 70 ou 80, mais en tout cas, la franchise est vraiment remontée, les gens en demandent, et on lui laisse les rênes pour un gros event, le premier depuis...
Maximum Security.
Maximum Security, ouais. Et donc 98, 99, quelque chose comme ça.
Ouais, donc, mais enfin, à la différence qu'à l'époque, tu pouvais passer à côté de Maximum Security quasiment. Et,
oui,
et
on aurait voulu passer à côté.
Tu pouvais comprendre ce qui... Enfin, imaginons que tu l'aies loupé, Maximum Security, que tu relises l'univers Marvel 3 mois après. Tu comprends ce qui se passe. Là, lire House of M, enfin ne pas lire House of M et lire tes titres quelques mois après, tu vois qu'il s'est passé un truc quoi.
Oui, et puis bon, la différence c'est que Maximum Security a duré quoi, 3 mois, même pas, alors que House of M en a duré 8. Donc c'était vraiment un long passage. Qui a envie de se charger de raconter en 2 mots House of M?
Bah alors, No More Mutants, ça fait 3.
Ouais. En fait, on peut dire c'est Disassembled par 2 en fait. C'est la sorcière rouge, comment traiter le cas sorcière rouge alors que Charles Xavier qui traite la jeune femme sur Genosha n'arrive plus à contenir son pouvoir qui de plus en plus augmente, et alors que sa santé mentale elle part en couille.
Et donc, on a deux camps. On a la première fois où on a vraiment deux camps dans l'univers Marvel en général, ceux qui veulent la tuer et ceux qui veulent essayer de la faire guérir, enfin tout simplement de la guérir, de lui donner encore une chance.
Ça me rappelle un truc récent, ça.
Ouais. Bah Wolverine, lui, il voulait la tuer, hein, à l'époque. Il voulait la zigouiller, alors que Cap disait non, on fait rien du tout. Donc, en fait, les deux parties, Vengeurs et X-Men, se rendent sur Genosha, ne trouvent pas la sorcière rouge, et lumière blanche.
Ça me rappelle encore quelque chose, je sais pas, l'air d'Apo quelque chose.
Quoi non, je connais pas. Donc commence alors une espèce de réalité, non pas dire parallèle, mais de réalité alternée en fait, altérée. Mm-hmm. C'est toujours la réalité Marvel, mais complètement changée, où les mutants sont devenus la race dominante, et alors, les humains sont en voie d'extinction.
Ouais, pourquoi House of M d'ailleurs? Puisqu'il y en a qui vont se poser la question.
Ben, c'est la maison de Magneto, puisque Magneto est le maître en fait de ce monde. Et Charles Xavier n'existe pas.
Et voilà. Et le seul à se rappeler que l'univers était différent auparavant, c'est, tadam, Wolverine.
Mais, oui, parce que dans cette réalité, il faut aussi préciser que chacun avait ce qu'il désirait le plus.
Chacun, ce qu'il voulait. Et ce que voulait Wolverine, c'était retrouver sa mémoire.
Et donc, il a sa mémoire, mais toute sa mémoire. Et même la mémoire de l'ancienne réalité. Enfin, aidée de Leila Miller.
Ouais, voilà. C'est-à-dire que, bon, petit ressort scénaristique, c'est bien les choses. Ouais.
Il faut rappeler que c'est lui qui a créé ce personnage, c'est Brian Michael Bendis qui a créé le personnage de Leila Miller.
Oui, exact. Et d'ailleurs, ce qu'on peut reprocher à Bendis quand même, parmi ses petits défauts, c'est qu'il utilise parfois des persos, tu te dis, il a des plans pour eux, comme Sentry, comme Leila Miller, et finalement, voilà, il les laisse totalement en jachère sur le côté. Et bah, c'est finalement Peter David d'ailleurs qui va complètement travailler sur le personnage de Leila Miller. Et bah, si on n'a pas lu X-Factor, finalement, on saura jamais vraiment qui elle était, cette Leila Miller.
Il faut d'ailleurs lire X-Factor, c'est un excellent titre.
Oui, mais c'est important de savoir qui elle était.
Non, mais par contre, c'est important de lire X-Factor si on veut lire de bonnes choses.
Bien sûr, mais enfin, je veux dire, ceux qui aiment l'univers Marvel peuvent s'en passer. C'est pas, c'est
totalement,
pas quelque chose de.
Totalement, totalement. Mais par contre, ils n'auront jamais le fin mot de House of M, quoi. C'est ça qui est drôle.
Donc après House of M se passe un événement et c'est là qu'on donne à Bendis un petit peu le pouvoir de gérer tout l'univers Marvel. Ouais. Retour au sortir d'House of M, Wanda fait une dernière crise, la sorcière rouge, et elle déclare cette fameuse phrase passée à la postérité aujourd'hui, No more mutants.
Voilà. Et donc, comme par hasard, alors là, encore une fois, le hasard fait bien les choses, il n'y a pas vraiment plus de mutants, il en reste quelques-uns, et comme par hasard, c'est les plus populaires. Ouh
bah, il en reste quelques-uns qui ont été protégés par la sorcière rouge, la sorcière blanche, pardon, Emma Frost et Doctor Strange, qui se sont associés, qui ont essayé de protéger le plus de monde possible, et ils ont pu protéger tous ceux auxquels ils ont pensé le plus rapidement.
Ceux qui étaient les plus proches.
Comme c'est beau.
Voilà.
Un event donc très important en termes de conséquences pour l'univers mutant, moins pour les Vengeurs quand même, puisqu'ils s'en sortent pratiquement indemnes de leur côté. C'est les X-Men qui ramassent. Et un event assez bon en fait, hein, dans l'ensemble, assez bien écrit, qui tient bien la route, je trouve.
Mais il faut regarder aussi pourquoi ils ont ramassé, parce que la franchise X, en la comparant à la franchise Vengeur, du coup perdait de sa superbe.
Mmh. Bah, surtout que on sortait en fait des années Morrison à l'époque, et qu'il y avait pas grand monde en fait pour prendre la relève derrière. C'est aussi ça. La franchise X qui était portée en fait par un titre maître, on va dire, qui était celui de Morrison. Et lui parti, qu'est-ce qu'il reste? Ben voilà, il restait plus grand chose derrière, donc il fallait relancer un peu.
Ouais, on a assisté à une totale, ça a complètement changé de sens quoi. Ça a été un renversement des puissances, voilà, en présence avec les Avengers qui devenaient vraiment la grosse franchise, et puis les X-Men et Spider-Man qui finalement étaient quasiment à la traîne quoi à l'époque.
C'est d'ailleurs pour ça que dans l'arc suivant de New Avengers, Bendis s'attaque à une storyline abandonnée des X-Men qui était Xorn. Il va résoudre les problèmes des X-Men maintenant.
Mais c'est là que l'on voit aussi le plan machiavélique qu'avait mis en place Bendis. Et ça, notre enquête en interne, dans laquelle on a pris énormément de risques, on a perdu des choses. Enfin, on peut pas le dire, mais.
Bah des membres de notre famille, hein.
Oui,
on peut le dire.
Bah oui, par exemple. Oui. Mais voilà, ce qu'on a pu découvrir, c'est que c'était un plan machiavélique de Bendis pour être le seul maître à tout jamais de l'univers Marvel.
Bah c'est ce qu'il a réussi en plus.
non, il est méchant en disant ça, c'est pas vrai. Enfin, peut-être est-ce vraiment ce qu'il voulait. Dans ce cas-là, il a bien réussi, mais bon. Ça on ne le saura jamais. À partir de là, il a vraiment le champ libre. Il a prouvé qu'à House of M, qu'un event chez Marvel pouvait marcher, et ça va être la porte ouverte à tout.
La porte ouverte à toutes les fenêtres.
La porte ouverte au « je vous fais un event par an ».
Voilà, qui change tout jusqu'au prochain.
Ouais, et puis à partir de là, la qualité des titres va peut-être décliner un petit peu, pas tout de suite. En fait, ce qui arrive juste après, en fait, c'est Civil War.
Non, il y a eu World War Hulk avant.
Ah non.
Oui, mais ça a un peu d'impact hein, sur New Avengers.
War Hulk arrive après Civil War, c'est un an après.
Après Civil War?
Eh ouais.
Ah, autant pour moi.
C'est en 2007, World War Hulk.
Ah oui, autant pour moi, oui.
Oui, c'est vrai.
Oui. Ah oui, justement, World War Hulk, c'était la petite pause entre Civil War et Secret Invasion.
Donc en fait, Civil War, c'est vraiment l'event qui va affecter les Vengeurs, tels que Bendis les concevait.
Et c'est pas lui qui l'écrit, surtout. Mm. C'est Mark Millar.
Ouais. Alors Mark Millar, il a fait un truc génial, c'est-à-dire qu'il a foutu la merde, quand même. Et voilà. Et après, c'était démerdez-vous, c'est-à-dire que chaque auteur devait se démerder dans sa propre série. Spider-Man se démasque, c'est pas grave, c'est Straczynski qui va expliquer pourquoi.
Je pense que c'est le résultat de réunions éditoriales où
ouais,
voilà, ça a été pitché et que ouais. On a dit ok, t'as le feu vert, vas-y. Ouais. Et puis les autres se démerderont, mais.
Mais ce qui était assez hallucinant, c'est de voir sur des forums des gens qui disaient ouais, Straczynski fait vraiment n'importe quoi, Spider-Man ne se démasquerait pas pour ça. Et d'un autre côté, bah finalement, c'était quand même Mark Millar qui le faisait se démasquer, quoi. Et il y avait plein de trucs comme ça dans Civil War, plein de trucs énormes, mais finalement Mark Millar s'occupe juste de les montrer, mais après se lave les mains pour trouver des explications plausibles, quoi. À côté de ça, dans Avengers, dans New Avengers, on avait Bendis qui nous a pondu toute une série de petits tie-in, on va dire, à Civil War, qui était plutôt réussi au fait pour le coup.
Avec une équipe de créatifs différentes, enfin en tout cas lui était au scénario, mais il avait des dessinateurs différents à chaque fois, un focus différent aussi à chaque fois.
Bah, c'est-à-dire ça s'attardait sur chacun des personnages de la team, quasiment. Captain America, Luke Cage, Spider-Woman, Sentry, un très mauvais épisode d'ailleurs, mais bon.
Bah le seul bon dont je me souviens, c'était vraiment celui sur Spider-Woman.
Ah, il y avait celui sur Iron Man. J'avais bien aimé celui sur Iron Man où vraiment c'est dans celui-là où t'as une espèce de relation de confiance qui s'installe entre Maria Hill et Tony Stark. Je trouvais ça bien foutu et j'avais bien aimé moi. Avec un mec qui prend possession de l'armure de Stark.
Oui, voilà, on sait pas d'où il sort ce mec en plus. Bon, ça m'avait pas marqué plus que ça. Au sortir en fait de Civil War, après avoir foutu la merde, Bendis en fait en profite. Et Marvel surtout, je pense, pour multiplier le succès d'Avengers avec de nouveaux titres Avengers.
Bah oui, on va capitaliser sur ce succès Avengers. La franchise a vraiment bien marché avec House of M. On l'a vu, on l'avait vu déjà avec New Avengers. Elle a encore plus marché avec Civil War, qui a été un des trucs les plus vendus à l'époque. Et ben voilà, les Vengeurs, on le vend en poupe, on en profite et on va multiplier les titres. Arrive donc à la fin de Civil War. Bon, on va rappeler très très vite, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire quand même, parce que on s'est attardé, mais on n'a pas expliqué ce qui se passait.
Donc en fait, le propos de Civil War est simple, c'est-à-dire après un incident où des super-héros, on va dire amateurs, qui étaient en fait les New Warriors, une version de télé-réalité des New Warriors, en fait, en affrontant Nitro, le mec explose et détruit une école, tue des centaines de gens. Donc à partir de là, le gouvernement
dont des enfants. Voilà, ça c'est le crime le plus suprême.
Là c'est le truc déclencheur en fait, et le gouvernement dit bon ça suffit, et on va arrêter d'avoir des super-héros qui font un peu ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent.
Bah, c'est un petit peu le 11 septembre des super-héros quoi.
À partir de maintenant ils travailleront pour nous, leur identité sera enregistrée, et limite ils seront payés par le gouvernement comme force de sécurité intérieure. À partir de là, ben il y a deux réactions différentes au sein de la communauté super-héroïque. Les uns qui disent oui, d'accord, pas de problème, effectivement, on trouve que c'est l'évolution logique qui est en fait, donc ce mouvement-là est mené par Tony Stark, Reed Richards et Hank Pym.
Tony Stark qui a vraiment poussé pour que la loi passe, hein, d'ailleurs.
Voilà. Et de l'autre, Captain America qui dit hors de question, c'est une atteinte à nos libertés fondamentales de pouvoir péter la gueule à qui on veut, où on veut, quand on veut.
Puis surtout, ça mettra nos familles en danger si on arrive à craquer les bases de données dans lesquelles sont enregistrés les noms des super-héros. Enfin, il y a tout un tas de problèmes, quoi. Et on n'aura plus notre indépendance.
Donc à partir de là, on
voit la solde du gouvernement. Qu'est-ce qui empêchera le gouvernement de nous envoyer dans tel pays, par exemple l'Irak, hein, parce que c'était à l'époque de la guerre en Irak, pour faire le travail de super-héros et détruire n'importe quel pays, quoi.
Authority.
Donc là, on a effectivement deux camps qui s'affrontent, et la conclusion amène en fait à la victoire du camp Iron Man. Victoire entre parenthèses, puisque donc les super-héros qui étaient de son côté sont enregistrés, et de l'autre, on a un groupe rebelle mené par Luke Cage avec Spider-Man et Wolverine qui disent va te faire foutre, et nous on fait
ce qu'on veut. De toute façon, cette guerre de super-héros s'arrête à la mort de Captain America, tout simplement.
Voilà, le gros traumatisme, c'est ça. D'ailleurs, mort de Captain America qui ne survient pas à la fin de Civil War, mais qui survient dans le titre de Captain America.
Le numéro 25, pour fêter l'événement.
Et pour la petite histoire, j'avais lu Civil War à l'époque, j'étais complètement passé à côté de Captain America, et c'est que des mois après que, en plus, j'avais dit en déconnant, ouais, ils vont tuer Captain America à tous les coups, et je savais même pas qu'il était mort. Et après, et des mois après, genre 5 mois après la mort de Captain America, je lis un truc sur un forum comme quoi voilà, il a été tué, Bucky l'a remplacé. Je me dis, mais attends, c'est pas possible quoi. Ils ont vraiment tué Captain America, sans déconner. J'étais vraiment passé à côté quoi. J'étais le seul au monde, puisque finalement enfin tous les fans de comics le savaient, ça avait fait grand bruit aux États-Unis. C'était, on en avait même parlé au journal télé, enfin
c'était pas la cinquième fois qu'il mourait du tout, non, pas du tout.
Ouais, mais cette fois-là, c'était la bonne.
Non. Oui, enfin oui et non, puisqu'il est revenu un an plus tard.
Je plaisante en disant ça, mais en tout cas, c'était la plus médiatisée, quoi. C'était comme Superman en 93.
Donc du coup, en fait, au sortir de Civil War, comme on a eu plusieurs camps qui se sont affrontés, Marvel s'est dit, ben plusieurs camps, on veut dire plusieurs teams.
Donc, oui, l'histoire n'est pas résolue à la fin de Civil War. On a les pro-enregistrements et les anti-enregistrements. Et c'est pas solutionné, même après la mort de Captain America.
Donc les pros, c'est Mighty Avengers et Avengers Initiative. Et les anti, c'est New Avengers.
Donc New Avengers va rester cette équipe avec Luke Cage et bah, quasiment tous ceux que l'on connaissait déjà qui refusent de s'enregistrer. Comme c'est bizarre, hein, c'est quasiment la même équipe. C'est arrangeant. Quand même.
Sans Iron Man et Carol Danvers.
Ouais, enfin... quasiment la même équipe, quoi.
Ouais.
Et puis, de l'autre côté, on a les Mighty Avengers avec tous ces héros enregistrés. Et on fait, en plus, ce dont tu as parlé, Avengers Initiative, qui est un espèce de camp d'entraînement pour super-héros placé dans chaque état, et avec des super-héros qui deviendront l'emblème de cet état et qui régleront les problèmes dans chaque état. Donc on a voilà, une initiative des 50.
Ouais, avec des personnages secondaires qui, du coup... qu'on apprend à connaître, à découvrir. C'était plutôt pas mal cette série.
Cette série était écrite par Dan Slott, puis elle a été finie par Christos Gage.
Ouais. Je suis sûr que tu n'as pas oublié le célèbre Kia.
Oui, alors moi je suis arrivé juste à la fin de cet arc-là. C'est là où on a commencé les podcasts, c'est là où j'ai repris à lire du comics Marvel de façon régulière.
Oh oui, je me rappelle, ouais.
C'était chiant.
Non, mais il y avait des très bonnes choses
par contre dans l'initiative. Ouais. Là, on est d'accord. Ouais. Mais ce n'était pas écrit par Bendis, donc ça nous intéresse moins.
Pour et puis surtout en 35 épisodes, il y avait énormément de choses. Ouais. Énormément de choses. C'est fou, d'ailleurs, ce qui peut se passer en 35 épisodes comparé à ce qui se passe en 35 épisodes de Bendis, parfois. Mais il y a aussi un truc qu'on n'a pas dit, c'est que à partir de Civil War, en fait, dans Avengers, dans New Avengers, Bendis va de plus en plus développer ce principe qui est que les events ne sont plus dans le titre, Avengers, ils sont à côté, et Avengers, bien souvent, au fait, va être une série dans laquelle c'est quasiment que des tie-in tous les 6 mois. Et on assiste toujours à des événements assez mineurs, finalement, dans le titre.
Ou alors à la préparation de l'event. En l'hiver.
Que les titres deviennent des espèces de grosses rampes de lancement pour le prochain event.
Ouais, et du coup, perdent totalement, pour moi en tout cas, leur côté épique. C'est-à-dire que avant, les Avengers avaient quand même des aventures assez extraordinaires. Et là, ça prend une dimension totalement intimiste. Limite, le champ d'action, ça se résume à le parc à côté de du manoir des Vengeurs.
Bah oui, Central Park.
C'est ça. C'est ça. Oui, c'est, en l'occurrence, c'est Central Park. C'est vrai que
son event suivante, qui est Secret Avenger, qui prend sa base dans la troisième année vraiment du titre New Avengers, et notamment avec le New Avengers 31, qui révèle que Elektra est en fait un spoil.
Ouais, sur une idée, mais voilà, c'est ça, totalement râler pas crête. C'est-à-dire que finalement, il n'invente rien, il sort un concept vieux comme le monde, qui date de Fantastic Four numéro 2 quand même, faut être balèze. Il y a des Skrulls, et ils se sont infiltrés un petit peu dans la communauté super-héros, et on ne sait pas qui est un Skrull, qui ne l'est pas, et il aurait pu développer une espèce d'ambiance de paranoïa, etc.
Bah, c'est ce qu'il fait, en fait, durant toute la troisième année du titre, à New Avengers, jusqu'au lancement en fait, de Secret Invasion, c'est ce qu'il fait.
C'est vrai.
Une espèce de vraiment d'ambiance qui est vraiment très bonne, de à qui on peut se fier, qui on peut faire confiance.
Elle est très bonne.
Dans Mighty Avengers.
Elle est très bonne peut-être, mais c'est aussi là le deuxième problème de Bendis, et c'est là que ça commence réellement, la répétition. C'est à partir de là que dans le titre se répète toutes les 4 ou 5 pages. Oui, mais je sais pas si t'es un Skrull. Oui, mais peut-être que t'en es un. Oui, mais peut-être que t'en es pas. Mais sinon, j'en suis pas un. Mais si, en fait, peut-être que je suis un Skrull parce que j'agis pas. En fait, c'est vrai que j'ai fait des choses ces dernières années.
Et voilà. Il introduit lors de sa troisième année le personnage qui va devenir symptomatique et récurrent malheureusement les années suivantes, The Hood.
Oui, The Hood, un personnage qu'il récupère. qui n'est pas une mauvaise idée en soi, les super vilains qui s'organisent sous la bannière
de The
Good.
C'est très bon comme idée, c'est juste que ça... Ça va être réutilisé encore et encore et encore et encore. Et
ouais,
encore.
C'est-à-dire que voilà, il va alterner entre The Hood contre les Vengeurs et les tie-in à ces events. Mmh. Et d'ailleurs, Secret Invasion sera écrit par Brian Michael Bendis, contrairement à Civil War. Donc à partir de là, Brian Michael Bendis va vraiment faire la pluie et le beau temps totalement dans l'univers Marvel. Et Secret Invasion va être au fait un truc 100% action quasiment.
Bah, je dirais que en fait, ça démarre très bien, le premier épisode. Ouais. On a en fait le début de l'invasion Skrull sur Terre, qui se révèle et qui passe à l'attaque. Donc le premier épisode est assez bon, parce qu'il y a pas mal de trucs. Et en fait, dès le second épisode, il y a une baisse de régime qui est assez terrible. Et ça remontera uniquement vers la fin. Donc on a en fait le 2 au 6, alors on attend un peu que ça se passe. Donc c'est, ça reste agréable à lire, mais c'est un peu chiant, par moment.
Ouais. Et par rapport à The Hood, ce qu'il faut préciser du coup, c'est que effectivement, comme depuis des années avec Bendis, les super-héros se battent entre eux, que font les super-vilains? Et justement, que font les super-vilains en ce moment? Eh ben, c'est les prémices à Dark Reign. C'est-à-dire les super-vilains, ils vont se dire, bah puisque les super-héros sont toujours occupés à se foutre sur la gueule, nous, on va se rassembler et on va essayer de marquer le coup et de marquer un grand coup, quoi.
Au sortir de Secret Invasion, il va réutiliser une idée de Warren Ellis que Warren Ellis avait imposée dans Thunderbolt, qui est que Norman Osborn était devenu le chef de l'équipe des Thunderbolts, ces criminels réformés, et il va récupérer le personnage de Norman Osborn et en faire la figure de proue de tout l'univers Marvel. Norman Osborn devient le chef d'une espèce de force armée, le Hammer, qui remplace le Shield qui avait été trop infiltré par les Skrulls.
Voilà.
En fait, il transforme vraiment les Thunderbolts en Avengers, en fait. C'est vraiment l'équipe de Warren Ellis qui est transformée en équipe de premier plan.
Et donc, on en profitera pour sortir un troisième titre qui s'appellera Dark Avengers.
Dark Avengers. Oui, parce qu'il n'y a pas assez de titres Vengeurs à l'époque, donc il faut rajouter.
Ouais, mais celui-là me paraissait bien plus original et bien plus abouti que les autres. D'ailleurs, je les ai trouvés très bons, les Dark Avengers, par Bendis.
Moins. C'est à peu près à cette époque-là que j'ai vraiment commencé à lâcher... les épisodes des Vengeurs par Bendis, justement, parce que ça aurait pu être très original. En fait, quand on prend le premier arc, c'est juste, c'est juste les Vengeurs contre, c'est qui Morgan l'a fait, oui, c'est ça. Donc, il n'y avait pas grande différence, à part, effectivement, qu'il y avait un certain nombre de manipulations politiques, notamment Osborn qui remet, Doom sur son trône.
Donc, il va y avoir le contraire des Illuminati, avec un conciliabule de...
La cabale, ouais.
De cabale, voilà, c'était le nom que cherchait la cabale, qui va être donc vraiment l'inverse des Illuminati, des gens corrompus jusqu'à la moelle.
Sauf une, Emma Frost.
Emma Frost, ouais.
Bah, est-ce qu'elle est pas là, vraiment corrompue? C'est là où je trouve que Bendis, on se dit à chaque fois, est-ce qu'il connaît bien vraiment les personnages? Parce que il y a vraiment des moments où tu te dis, non mais c'est pas possible, Emma Frost, elle peut pas être dans ce groupe-là, et en même temps être aussi détachée de ce qui se trame, et... par exemple, ne pas prévenir les X-Men et leur dire « Bon, écoutez, les gars, il faut qu'on intervienne, c'est la merde dans toute la communauté, les super-vilains dirigent le monde. » Enfin, voilà.
Je crois qu'il avait menacé, en fait, justement, tout le monde, les différents membres de la cabale, s'il révélait l'existence du groupe. Parce qu'il avait Sentry sous son contrôle à ce moment-là.
D'ailleurs, c'était très drôle parce qu'on se demandait qui était cette mystérieuse figure qu'on voyait dans l'ombre. Et voilà. Avec Steve, je me rappelle, à l'époque, on avait même émis la possibilité que ce soit Mephisto, je crois.
Oui, c'est vrai. Ouais, oui. Bah, ça rappelait un petit peu qu'est-ce qu'a vu Lorna.
Oui.
Sauf que là, on a eu la réponse.
Ouais. Bon, c'était une réponse, oui. Et puis en plus, on pouvait le déduire un petit peu par rapport à tout ce qu'avait fait.
En même temps, c'était logique, quoi.
Mais c'est là que commence pour moi la période creuse de Bendis. À l'époque, on avait donc deux titres. On avait un titre de Hors la Loi avec les New Avengers et un titre de Ceux qui respectent la loi avec les Mighty.
D'ailleurs, les Mighty sont repris ensuite par Slott à la même époque.
Oui, il abandonne au numéro 20, il laisse les rênes à Slott. Et du coup, on a quand même deux équipes de Vengeurs, enfin deux titres de Vengeurs qui s'opposent aux Dark Avengers que l'on voit dans leur propre titre et qui s'opposent à cette domination de Norman Osborn.
D'ailleurs, très vite, mystérieusement, les Mighty Avengers vont quand même perdre de la vitesse.
Oh, moi, j'aimais bien.
Oui, moi
c'était
aussi, non, mais bien sûr.
Équipe,
mais
j'avais pas rendu
mal dessiné.
Comme Avengers Initiative, je crois que c'était Coy Pam. Non.
Oui.
Mais
oui, malheureusement.
comme Avengers Initiative, disons que ça va vite partir au second plan. Et de toute façon, Avengers Initiative, malheureusement, c'était un concept qui pouvait pas durer, puisque ça reposait sur les ruines de Civil War. Et petit à petit, la situation de l'univers Marvel évolue et finalement, bah, on s'en fout, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'a plus cours.
Cette période de Dark Reign va s'étaler pendant un an. Et puis, on va aller vers le dernier plan de Bendis, Siege, qui sera en fait le plan ultime de Norman Osborn, prendre le contrôle de tout et justement virer les Asgardiens qui sont sur Terre.
Parce qu'en fait, durant toute l'année des Dark Avengers, on le voit peu à peu perdre pied, en fait, et la personnalité du Green Goblin peu à peu refaire surface, et il se convainc que les Asgardiens sont une menace qu'ils doivent dégager, puisqu'en fait, à ce moment-là, ils occupent le territoire américain en Oklahoma, et pour lui, il faut qu'il dégage, quoi.
Siege ne durera que 4 numéros, puisque on nous parlait tous d'Event Fatigue. Marvel était conscient que les gens commençaient à avoir marre de tous ces crossovers incessants. On avait subi donc House of M en 2005, Civil War en 2006, World War Hulk en 2007, Secret Invasion en 2008. Ouais. On a Siege qui commence début 2010, il ne fait que 4 parties pour essayer de raccourcir les choses. On met fin à cette histoire de Norman Osborn de façon plus ou moins inspirée. Ah bon.
Ouais, c'est assez expéditif, hein.
Ouais, que j'allais dire plus ou moins abrupte, moi, mais disons qu'en plus quand tu réfléchis à toutes les histoires dans New Avengers à partir de Secret Invasion jusqu'à Siege, lesquelles tu retiens finalement, y a pas grand chose, quoi.
Ouais. Utopia. Comme et c'était pas bon.
Utopia, je m'en rappelle même pas, c'était quoi,
c'était les Avengers qui
avaient contre les X-Men.
Ah oui, d'accord, ouais. Mais
ça débouchera quand même sur l'arrivée d'Utopia et le fait que les mutants se mettent sur leur île, quoi.
Ouais, mais les trois quarts, ça se borne à, comme disait Sam tout à l'heure, combat contre The Hood, combat contre les démolisseurs.
Toute l'année du Dark Reign dans New Avengers, c'est The Hood et The Hood. Voilà, c'est une année à se taper contre The Hood.
Ouais, avec vraiment des, je dirais, ils perdent complètement la dimension épique du titre. C'est sans ambition, quoi. C'est vraiment The Hood décide de les manipuler avec un dispositif, je sais plus quoi, un truc qu'ils implantent dans leur tête. Enfin, y a pas grand intérêt, quoi, en fait, à lire les Avengers.
Là, c'était histoire d'avoir aussi quelque chose de magique. Et puis, on aura aussi cette passage où le Docteur Strange perd son titre de sorcier suprême.
The Search of the New Doctor Strange. Sorcier suprême.
Finalement, ce sera Brother Voodoo et il restera pas longtemps, quoi. Donc,
Il y a quand même pas mal de bides, quoi. On sent que les gens sont lassés et on sent que Bendis aussi, il est lassé peut-être, quoi.
Moins inspiré. Alors, au sortir de Siege, on décide de lancer l'Heroic Age. Donc après cette période sombre, le Dark Reign, on a un âge héroïque, la loi d'enregistrement des super-héros est annulée, on efface ce décret, tous les super-héros peuvent revenir, ils ne sont plus traqués par le gouvernement, et on en profite pour relancer toutes les séries. Donc on relance New Avengers, et on relance aussi la série emblématique, celle qui a marché depuis 1963, Avengers. Bendis contrôle encore les deux, il va essayer au départ de nous faire des choses différentes. Alors, on n'a pas le même avis, je me rappelle, avec Benny. Moi, j'avais tendance à préférer New Avengers au départ, et lui, plutôt Avengers. Avengers était parti sur un trip voyage dans le futur, réalité parallèle, etc. Futur alternatif. Alors que New Avengers, c'était justement le côté magique.
C'était surtout que c'était un petit peu devenu les incroyables aventures de la famille Cage, quoi. J'ai l'impression, Mighty Avengers...
C'est clair, c'est le problème. Je suis entièrement d'accord.
Avec le côté de plus en plus aussi dans le titre, tu sais, ambiance confessionnelle, confession intime, avec des membres qui racontent, qui font le débrief au fait d'une aventure que tu n'as pas vue, et dont Bendis à chaque fois va commencer par la fin, et ensuite te montrer en flashback avec des témoignages des différents membres de l'équipe ce qui s'est passé, et franchement, ras le cul, quoi, de ce type d'écriture à force. C'est plus possible.
New Avengers, c'est plus un titre familial, effectivement. Oui. Il écrit ça comme une famille, vraiment. C'est-à-dire les 7 membres de New Avengers, c'est vraiment une espèce de cellule familiale. Alors que Avengers, c'est...
Mais c'est un peu le Fantastic Four du pauvre, quoi.
Eh ben, ouais, c'est un petit peu le Fantastic Four du pauvre. Et puis justement, moi, ce que j'aimais bien, c'était que enfin, Avengers retrouvait cette dimension épique. On arrivait dans des dimensions parallèles avec Ultron, des voyages dans le futur. Je sais pas. Enfin, il y avait un petit peu, d'ambition, quoi. Vraiment, ça prenait de l'ampleur. On était plus à les pâquerettes à affronter The Hood au coin de la rue, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Et puis on va terminer, on s'arrêtera là, on va très très peu parler de ce qui vient après AVX, puisque ce n'est pas encore sorti en français, et on veut que ce podcast soit écoutable par
même
les gens qui
suivent. Surtout qu'après il y a Fear Itself et on veut pas en parler.
Moi Fear Itself, de toute façon on peut le zapper, il s'est rien passé quoi. Voilà, il s'est rien passé franchement dans Fear Itself. Rappelez-vous les numéros d'Avengers et New Avengers, il s'est rien passé quoi.
De toute façon oui, après...
si l'Avengers Tower a été détruite.
On a l'impression que Bendis... Que
l'Avengers a été détruite dans World War II.
Ouais, c'est vrai. Mais on a l'impression que Bendis, en plus, boudait un petit peu le fait qu'il ne soit pas aux manettes, hein, cette fois-ci, puisque Fear Itself, c'était Matt Fraction, essentiellement.
Faut rappeler quand même qu'il s'est quand même bien gaufré avec Siege. Siege, dans l'ensemble, était quand même relativement pas bon.
Ouais.
Et il s'est moins vendu que le crossover d'essai qui était Blackest Night à l'époque.
Parce que finalement, Siege nous part comme cette espèce d'acte final de Norman Osborn et se révèle être simplement une histoire où le méchant c'est Sentry, quoi.
Et on ne sait d'abord pas d'ailleurs, parce que la nature de Sentry a jamais été révélée en fait.
La chute de Norman Osborn est petite en comparaison de ce que le mec avait fait durant tout le Dark Reign, où il était super imposant.
Ouais.
Sa chute était ridicule.
On a l'impression que...
Quand on a préparé l'émission en fait avec Steve, on s'est rendu compte qu'on avait le même sentiment en fait sur le Dark Reign et la fin de Secret Invasion, c'est-à-dire que le mec en fait avait fini à la fin de Secret Invasion sur les Avengers, il avait fini et on avait un peu le sentiment que Marvel lui a dit non il faut que tu restes, les Avengers c'est la franchise reine, c'est toi l'auteur, c'est le truc, faut que tu restes. Et à partir de là,
il a fait le Dark Reign où il s'en est plutôt pas mal sorti finalement. Et
grâce à Dark Avengers, au fait.
Grâce à Dark Avengers, c'est sûr.
Sur New Avengers, vraiment
on sentait vraiment qu'il avait des nouveaux jouets et qu'il était content avec. Et d'ailleurs, il a même dit quand il a arrêté le titre qu'il avait été super content de faire ça, qu'il avait été vachement inspiré. Et bizarrement, tu te demandes, mais pourquoi est-ce qu'il arrête Dark Avengers alors qu'il te dit qu'il était vachement inspiré et qu'il garde un titre?
Parce que c'était la fin du Dark Reign et que ça n'avait plus. C'était plus possible de faire des Dark Avengers après le Dark Reign, c'était l'Heroic Age.
Mais ça tombe plutôt mal, quoi, puisque tu sens que le mec est vraiment plus inspiré du tout, quoi.
Et là encore, avec avec la fin du Dark Reign et le début de l'Heroic Age, il s'était fermé une porte avec Siege, il avait terminé. Et honnêtement, on en discutait donc hier soir avec Sam en finissant de préparer l'émission, et c'est clair, pour moi, je pense que ce sont des pressions éditoriales qui ont fait qu'il est resté. Il est resté jusqu'au bout, et on lui a dit, écoute, non, tu peux pas partir maintenant, quoi.
Mais vraiment sur le Heroic Age, mais de manière prononcée, parce qu'il y a, des vides terribles quoi dans ces scénarios.
En fait, il avait plus envie d'écrire. Mais comme c'était Bendis et que tout le monde savait que ça allait se vendre, eh ben on a laissé faire. Mais je pense qu'il a essayé de prouver qu'il n'avait plus rien à dire en nous montrant encore les mêmes intrigues. Tout récemment en français, qu'est-ce qu'on a vu? Le retour de Norman Osborn.
Encore. De The Hood, pour la cinquième fois.
Donc là, ça va être AVX qui va démarrer là en français le mois prochain. Bon, moi j'ai pas lu les tie-in AVX US dans les Avengers et New Avengers. Je sais pas si l'un de vous l'a lu. J'ai juste lu le début de New Avengers qui était plutôt pas mal. On va pas en parler ici. Vous le découvrirez ça en français. Pour ceux qui lisent la VO, bah vous savez. Sinon, écoutez les Comics Weekly. Et voilà. Enfin, le début était pas mal. Le reste, je sais pas. Je suis pas forcément super intéressé pour les lire. Apparemment, de ce qu'on en voit, je sais pas si quelqu'un suit encore le titre US.
Non, j'ai arrêté à la fin de la première année de Hero Kid.
Je me rappelle plus si je dois en lire de temps en temps. D'ailleurs, il y avait oui.
Donc là, il est en train de conclure son histoire. Ses derniers numéros sont sortis où vous écoutez ce podcast, ou vont sortir cette semaine-là.
C'est jusqu'au début de novembre, il me semble.
Fin octobre. Les derniers numéros sortent en octobre.
Ouais. C'est au numéro 34.
Numéro 34 pour New Avengers, numéro 34 pour Avengers. Il termine son chapitre. Termine aussi avec les personnages qu'il a le plus utilisés durant ses New Avengers et depuis 2005, c'est-à-dire Luke Cage et Jessica Jones. Comment ça se termine? Bah ça, on ne le sait pas encore, malheureusement. J'espère que ce sera intéressant à découvrir. On va partir sur complètement autre chose aux États-Unis. Un changement créatif complet. Bendis va se recycler chez les X-Men. Chose que on disait avec Bunny depuis très longtemps dans les podcasts. Oui. C'est vrai que Bendis sur les X-Men, ça aurait sûrement de la gueule. Bon, on va pas trop en révéler pour ceux qui ne sauraient pas. Malheureusement, ce qu'il a prévu pour moi, c'est pas ce que j'attendais.
Ouais,
on peut peut-être avoir des très bonnes surprises, mais honnêtement, c'est pas le concept que j'attendais.
On n'a pas parlé de cette nouvelle série Avengers, si.
J'allais y venir, ouais.
D'accord.
Avant de terminer, il a lancé une nouvelle série, Avengers Assemble, comme s'il n'y en avait pas assez, dans lequel il a décidé de reprendre tout le cosmique. Montrer que c'est lui le patron à Marvel, il a décidé de reprendre tout le cosmique en, selon moi, ça n'engage que moi, saccageant le travail qu'avait mis en place Dan Abnett et Andy Lanning.
Ouais. Non, mais clairement, il s'en fout, quoi. C'est-à-dire que il fait vraiment la pluie et le beau temps, et s'il décide de s'emparer d'une franchise, il le fera. D'ailleurs, on le laisse faire, de toute façon, vu que son nom vend beaucoup plus que Dan Abnett et Andy Lanning, hein, malheureusement. Donc voilà.
On va pas révéler en quoi, mais disons que la fin de Thanos Imperative n'est pas respectée.
Bah, ouais. Si, on peut le dire, hein, c'est sorti en français.
Thanos Imperative, oui, mais Avengers Assemble, c'est pas, on n'en est pas encore à ces épisodes-là.
Ah, pardon, oui.
C'est au vous verrez à la fin du numéro 4, vous comprendrez.
Ouais, mais d'ailleurs, ils en sont pas au numéro 4, là, ce mois-ci.
Non, c'est au numéro 2.
Ah, d'accord.
Numéro 2 en octobre, numéro 3 en novembre, oui.
Ah ouais, tu vois.
En VF.
Oui, en VF, mais je pensais que c'était déjà plus loin. Bon, en même temps, ça permet de retrouver ce fameux couple Bendis-Bagley que l'on avait vu sur Ultimate Spider-Man. Couple quand même relativement mythique.
Ouais. Oui, avec un Bagley qui s'en sort pas si mal sur les derniers épisodes que j'ai pu voir.
Moi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai détesté le scénario de Bendis, mais le dessin de Bagley est très très inspiré.
Bon, bah alors on est d'accord.
On restera son dernier event, AVX, que vous allez découvrir, qui est écrit avec d'autres auteurs. Hein, il l'écrive à 5.
Mais à 10 mains.
Mais Bendis a quand même, on sait très bien, la priorité sur l'univers. Bon, maintenant que c'est terminé aux États-Unis, on peut dire bah vous allez découvrir ça en français.
C'est de la merde.
Vous allez rigoler ou pleurer des larmes de sang peut-être.
Si vous avez eu peur avec Fear Itself, vous allez avoir très très peur avec AVX. Et il y a aussi quelque chose qui tenterait à prouver que vous avez raison sur le fait qu'ils ont voulu le garder jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils ont repoussé quelque chose que Bendis veut faire depuis des années. C'est un petit peu son arlésienne.
Là, Ultra War, oui.
Ouais, bah d'ailleurs on peut le nommer puisque de toute façon on en a déjà parlé dans les parutions françaises.
Ça fait juste 3 ans que ça a annoncé.
Mais ça a été annoncé dès le début de cette dernière série Avengers, le Heroic Age, dont le Avengers numéro 6, où l'on voyait ce tableau qu'il avait complètement repompé à Jeff Jones et Booster Gold,
et puis même et posté aussi à Lost.
Peut-être Lost, oui, je sais pas, moi j'ai pas vu la série.
Mais en tout cas, au final, je pense qu'on aura Ultron War, mais dans Booster Gold.
En 2013.
Puis en 2014, puis en 2015, puis en 2017.
Apparemment, on l'aurait pour l'année prochaine. C'est l'événement de l'année prochaine aux États-Unis.
Oui, ouais. Bien sûr.
Je sais pas. Sachant qu'ils sont en train de tout relancer, est-ce franchement le moment de préparer un crossover?
Oui.
Un event? Pour moi, non, mais bon.
Je pense que ça va être une mini-série que peu de gens vont suivre. Et
Malheureusement, on peut le dire aussi, hein, les chiffres des ventes pour AVX sont très bons. Pour Marvel, c'est quand même leur principale vente, c'est AVX. Ça fait mal au cul, mais
c'est ça, ce
quoi.
Qui leur permet d'être en tête du classement chaque mois. Sur le papier, c'est normal. Les deux plus grandes franchises qui se rencontrent, les Avengers et les X-Men. Normal que ça attire tout le monde.
Ouais, on peut se demander aussi s'il n'y a pas quelque chose d'un peu malsain que AVX se vende à 200 000 exemplaires, alors que les titres Avengers et X-Men se vendent entre 50 et 60 000 exemplaires derrière.
Bon, admettons que ce soit pas le même public. Pas le même public. Si tu cumules les deux, ça fait 100, 120.
Voilà.
Bon, l'avènement aussi des variants de cover et compagnie. Bref, donc, le bilan Bendis sur les Vengeurs. Je vais vous laisser commencer.
J'irai positif dans l'ensemble, puisqu'on voit d'où il est parti quand même. Hein. Une série Vengeurs qui ne se vendait pas trop, et en 8 ans, il en a fait le porte-étendard de Marvel, quoi. Le nouveau X-Men, en fait.
Ouais, je pense honnêtement que sans Bendis, on n'aurait pas eu de film Vengeurs.
Non, parce qu'il y a beaucoup d'éléments en fait du film Avengers qui sont tirés à la fois du titre Ultimate de Mark Millar, mais qui viennent aussi de ce qu'a apporté Bendis.
Rappelons que Bendis est quand même aussi un des architectes de l'Ultimate. Hein. Il était là dès le début et je pense qu'il a aussi bien imposé sa marque sur l'ensemble de l'univers, même s'il ne traitait que Ultimate Spider-Man.
Bah, on peut le dire, hein. De toute façon, Bendis, c'est un petit peu Stan Lee depuis 10 ans, quoi.
Ouais, c'est ça. Il est pas, c'est bizarrement, tu vois, autant chez DC, Geoff Johns, ils l'ont nommé Chief Creative Officer. Pour Bendis, ils l'ont pas fait chez Marvel, je comprends pas trop pourquoi.
Bah, parce qu'il écrit 8 séries en même temps, donc ça ferait un peu trop, je pense.
Ouais, voilà, c'est ça. Oui, le problème, c'est qu'il faudrait qu'il se résolve à se retirer un petit peu de plein de choses, de plein de séries, à la rigueur, de s'occuper d'un ou deux titres, s'il veut bien faire les choses, allez, trois à la rigueur.
Peut-être s'occuper aussi de ses titres indé, hein, Powers, ouais, Scarlet, exactement. Brilliant, tout ça, quoi.
Ouais. Oui, Powers aussi. Ouais.
Et puis Powers est la nouvelle série qui débarque aux États-Unis. Enfin bref, il a quand même aussi beaucoup de projets indés qu'il ne fait pas puisqu'il les sort à chaque fois en retard, quoi. C'est une catastrophe, Brilliant par exemple.
Oui. Bah de toute façon même c'est une catastrophe.
Oui, non mais je parle même pas en termes d'histoire, je parle en termes de sortie, c'est une catastrophe. Powers est une catastrophe. Il y a des moments où on a quand même un épisode une fois dans l'année, quoi.
Ouais.
C'est un annuel, le machin.
Ouais. Donc enfin voilà. Donc si tu veux ma conclusion sur Bendis, je rejoins Sam sur le côté réussite éditoriale, hein. Marvel a complètement relancé la licence, on a fait la vraiment leur licence phare, et puis ça aboutit sur ce film Avengers et plein d'autres choses. Enfin c'est vraiment une réussite commerciale et éditoriale. Maintenant, pour nous lecteurs fans de comics, c'était grandeur et un petit peu décadence, parce que finalement jusqu'à Secret Invasion c'est vraiment pas mal, et puis à partir de là, je veux dire, ça fait des années que on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent finalement quand on lit Avengers.
Oui.
Il tourne en rond en fait.
On l'a senti, hein, des Mighty Avengers pour ma part, enfin moi je l'ai senti des Mighty Avengers, qu'il n'était pas capable d'écrire deux séries en même temps, deux séries intéressantes. Bon, après, il y a le fait qu'on se range d'un camp ou de l'autre. C'est vrai que si on se range du camp d'Iron Man, on ira plus facilement lire Mighty Avengers, ou si on se rangeait du camp des rebelles, ceux qui veulent pas l'enregistrement, on allait plus facilement lire New Avengers.
Mais au final, on l'oublie, finalement, j'ai envie de dire.
On l'oublie, quoique dans New Avengers, c'est quand même facilement, c'est tout le temps rappelé, puisqu'ils sont toujours là à être poursuivis.
Mais c'est tellement rabâché que finalement, tu t'en fous quand tu lis l'histoire, t'as juste envie de lire une bonne aventure, et c'est toujours un peu pareil, ce que tu dis.
Et le problème, c'est que les menaces qu'ils opposaient aux Mighty Avengers étaient vraiment nazes, et on le sentait pas inspiré, quoi. Et à partir de là, c'est vrai que on voit qu'il arrivait à bien mener sa barque pour un titre. Mais
attends, on a quand même vu Ultron à poil.
Ouais.
On a vu Iron Man transformé en femme, transformé en Ultron.
C'est vrai, oh là là, oh, et c'était vraiment mauvais.
Ah ben on avait quand même deux épisodes où Ultron ne bougeait pas.
C'est vrai, oui, je me rappelle, il y avait des parodies même sur le net, des dessins de Frank Cho, tellement c'était ridicule. C'est vraiment un copier-coller de la même planche sur 10 pages.
Pour moi, Bendis restera celui qui a donc remis un coup de boost aux Vengeurs, ça on l'a tous dit, on est d'accord, qui a rendu cette franchise qui était très moribonde, quelque chose à avoir absolument quand on est fan de chez Marvel. On était quasiment obligé de lire cette série. Par contre, il a des défauts, et notamment le fait que depuis ces 3-4 dernières années, ça se répète beaucoup.
Disons que Bendis, c'est de très bonnes idées, mais qui sont très mal développées finalement.
Peut-être que aussi l'intervention de crossover constant ne l'aide pas aussi à développer ses idées.
En même temps, c'est lui qui les prend en charge, hein, donc je pense que ça vient aussi de lui. Je suis pas certain que ce soit Marvel qui pitch l'idée en disant écoute, il faut que tu nous fasses Norman Osborn qui attaque Asgard, et qu'après il se démerde avec ça.
Et puis aussi, il y a un truc, ça n'engage peut-être que moi, mais je pense que c'est quelqu'un qui est relativement fainéant finalement. Parce que il doit avoir tellement l'habitude d'écrire des scénarios et d'avoir cette narration décompressée, qui est très bien d'ailleurs, hein, mais il doit tellement avoir cette habitude que finalement, avec le peu d'histoire qu'il injecte dans ses scénarios, c'est-à-dire que finalement, les pitchs, c'est un pitch 10 épisodes, quoi, quasiment, maintenant. Non, sans déconner, quoi, c'est à peu près ça.
Oui, non, mais c'est vrai en plus.
Finalement, il s'embête pas tellement. C'est un petit peu de la poudre aux yeux aussi. On sait qu'il est sur plusieurs séries en même temps, mais en tout cas sur les Avengers, j'ai pas l'impression qu'il se fatigue énormément, quoi.
Et il aura aussi eu la chance d'avoir travaillé avec des très 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 grands noms en termes de dessin.
Oui.
Et ça aussi, ça a contribué à ce que le titre se vende.
Oui. Mmh. Ouais. Donc en fait, il se Jeff Loebis.
Ouais, je...
Ah oui, non, oui, est... oui. Oui, ah si, si, quand même, oui, ça m'a mais... pas tort sur certains aspects, parce que t'as vraiment des fois où tu te dis, puis quasiment pas de pitch, bah déjà, sur Avengers Assemble, c'est vraiment du Jeff Loeb, quoi.
Ouais.
Des personnages de partout, qui sortent de nulle part, pas de scénario, ou quasiment pas, de la grosse baston, tu comprends pas où il veut aller, et puis, le côté un petit peu, je m'en fous de ce qu'ont fait les autres, quoi. Voilà, je fais mon truc,
Bon, à savoir que à partir du mois de novembre, le titre Avengers Assemble sera repris par Kelly Sue DeConnick. Fini donc Brian Michael Bendis sur les Vengeurs. C'est définitif, en tout cas pour le moment. Il reviendra pour Ultron War, qu'il a, il a peut-être déjà écrit ou pas.
Mais je pense qu'il l'a fait, hein. C'est écrit et dessiné hein, normalement.
Puis bah il s'embarque dans une autre aventure. Il reprend la franchise X-Men. Qu'est-ce que vous en attendez sans révéler le pitch, puisque bah, pour les Français qui ne seraient pas au courant. Enfin, ceux qui suivent en VF, on va éviter de spoiler, mais qu'est-ce que vous en attendez de Bendy sur les X-Men?
Moi, je m'attends à un petit vent de fraîcheur quand même sur une licence qui est vraiment en décrépitude quand même assez prononcée ces dernières années. Y a un côté, si tu veux, je sais pas comment expliquer ça, mais les X-Men ont toujours eu ce côté normalement un petit peu frais, quoi, tu vois. Il y a toujours des nouveaux mutants. Donc je pense que Bendis serait l'homme de la situation pour les rendre un peu plus actuels. Voilà, c'est ça, actuel, punchy. C'est ce qui leur manque. Les X-Men se traînent vraiment avec des vieilles casseroles. Depuis des années, on lit toujours les mêmes histoires. Donc peut-être que Bendis pourrait moderniser tout ça.
Mais reste ce pitch de départ.
Oui. Personnellement, je suis pas très ouais, moi aussi, justement à cause d'une part du pitch qui renouvelle pas grand-chose en fait,
qui rend les choses encore plus compliquées hein, surtout.
Qui recycle, voilà, c'est du recyclage. Et moi, mon problème principal, c'est que
je suis pas forcément d'accord avec le recyclage. Hein. Personnellement, c'est relativement novateur, mais c'est tellement novateur que, enfin, c'était une idée trop conne qu'il fallait pas faire.
C'est casse-gueule, hein, comme
oui, alors, c'est casse-gueule à fond.
Je dirais surtout que le titre phare des X-Men, c'est Wolverine and the X-Men. Voilà, c'est surtout vu la fin d'AVX. Oui. On spoilera rien, mais voilà.
Non, on spoilera rien.
C'est vraiment le titre phare parce que d'une part, c'est le titre le plus inventif de la franchise depuis 10 ans.
Ah, disons que c'est le titre le plus fun. C'est le titre le plus.
Voilà,
fun.
Oui. C'est le titre le plus fun.
Il y a toujours X-Factor, hein, cela dit. Même si personne ne le lit.
Si, ça. Voilà,
on est trois à lire ici. Hein.
Bon bah très bien, très bien, très bien. X-Factor,
j'ai un peu décroché du rythme US, je suis un petit peu en retard, mais.
Comme on en est quand même au chapitre mutant, j'ai envie de dire X-Force, ça reste quand même la grosse claque des dernières années, quoi.
Sans spoiler non plus personne, X-Force conclut avec son renouveau de la franchise, donc. Voilà. Le problème, c'est vrai que actuellement, en termes de série X, on ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est un peu le souci. Donc, on sait que Brian Michael Bendis va reprendre la franchise X avec son titre. On peut dire le nom. Hein, ça spoilera pas. Ça s'appelle All New X-Men. Cependant, on ne sait pas où ça va. Et on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre dans cet univers.
Je dirais le malheur avec Marvel Now, c'est que justement le changement c'est maintenant, mais le changement ça aurait dû être il y a 3 ans, quoi. Voilà. Oui. Pour moi, Bendis sur les X-Men il y a 3 ans, j'aurais dit ouais putain génial, ça y est, ça va relancer la machine.
Now est ce qu'aurait dû être l'Heroic Age. Et ils auraient niqué DC là.
Même avant, parce que Heroic Age. C'était il y a 2 ans et finalement ça faisait déjà un an qu'on s'embêtait.
Ouais, mais il y avait le Dark Reign et je pense que c'était une parenthèse nécessaire pour peut-être repartir sur quelque chose. Malheureusement on peut pas changer le passé, donc on espère, en tout cas à Comic City, on espère que vraiment le Marvel Now fera un gros renouveau chez Marvel tel qu'on l'a connu chez DC, qui a ses défauts, peu importe, mais en tout cas ça a été un renouveau que les lecteurs suivront. C'est vrai que moi je me balade de temps en temps sur des forums US, trucs comme ça, et les gens sont enthousiastes, mais pas tant que ça, finalement.
Trop de relaunch, voilà, surtout.
Trop de relaunch, et puis les gens disent, ça va être pour nous faire la même soupe d'ici 3 mois, quoi. Alors j'espère que Marvel nous fera vraiment vraiment plaisir en prenant tout le monde un peu à contre-pied, sans non plus faire trop de retcon, par pitié. Mais voilà, vous allez découvrir ça. Déjà, vous allez découvrir AVX, et avec AVX, vous comprendrez qu'il était temps de changer. On va rester un dernier mot sur Bendis. Ouais, Bendis a été quand même une grande aventure sur les Avengers. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais dans l'ensemble, ça reste quand même un run à lire si on ne l'a jamais lu. Ça reste
il y a eu des bas, comme ce soir.
Oh, joli, c'est beau. Quoique, on est relativement du même avis. Hein. Je m'attendais.
Bah, on est que trois, donc à mon avis, ouais. On aurait été un peu plus. Il y aurait peut-être eu plus de désaccords, mais
puis on est des vieux lecteurs aussi. On est tous les trois des vieux lecteurs.
C'est vrai, on est trois vieux lecteurs. Ça joue aussi peut-être. Mais je m'attendais à ce qu'on soit
sur la longueur aussi.
Un peu moins d'accord, parce qu'on en avait que brièvement parlé justement pour garder un petit peu toute forme de débat possible dans l'émission. Et finalement. Il n'y a pas eu tant de débat que ça, on est relativement d'accord. Alors n'hésitez pas vous aussi à nous dire ce que vous avez pensé de cette aventure Bendis de 8 ans sur les Avengers. Quasiment 250 numéros, on le rappelle. C'est pas rien. Malgré tout, ça force le... Je trouve pas la fin de la phrase. Ça force le respect, voilà. Ça force le respect parce que quand même, voilà, je pense que tout le monde n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait.
Chuchu.
Oh, non.
Non, je suis sûr qu'il y arrivait.
Je plaisante.
Il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui seraient restés aussi longtemps.
Comme je dis, c'est quelqu'un qui, à mon avis, a beaucoup de talent, mais qui se fait pas chier du coup, quoi. C'est-à-dire que vraiment là, en ce moment, depuis des années, bah, il est en pilote automatique.
Ouais.
Et n'oubliez pas aussi que si vous voulez lire vraiment la complète de Bendis, même pour les Avengers, il faut. C'est pas un passage obligatoire, mais c'est quand même pas plus mal de découvrir des séries comme Alias, comme The Pulse, comme Secret War. Des petites choses comme ça qu'il avait faites avant et qui finalement prennent leur sens quand on lit tout. Parce que c'est quand même quelqu'un qui, du point A au point B, c'est-à-dire sa fin, il y a quand même une grosse tenue, quoi.
Mais il y a quand même tout un alphabet qui fait entre le point A et le point B.
Ouais, il y a A prime, A sur prime.
AVX.
Et puis à la fin, il y a eu A D prime surtout.
Mais... il y a eu A au secours aussi.
Oui, A casse-toi aussi.
AVX. Pardon, c'était vraiment trop nul comme blague. Eh bien, on va se quitter. J'espère vraiment que ça vous aura plu ce petit retour sur les années Bendis. Eh oui, il y a eu les années coup de cœur.
La prochaine, donc, il sera sur le plateau de Michel Drucker dans le canapé.
Voilà. C'était notre jeunesse.
Non, mais ça restera, franchement, on peut pas le nier, ça restera un événement marquant, quoi.
Oui, ça restera un run.
Il y aura eu l'avant et l'après Bendis. Vraiment.
Peu d'auteurs peuvent en dire autant.
Et comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce qu'a fait Bendis, sur ce que vous en pensez, si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé, si vous n'êtes aussi pas d'accord avec nous, ça nous intéresse de savoir ce que vous pensez. Puis échanger un petit peu avec vous. Sur justement ces différents aspects qu'ont eu toute cette aventure qui a duré, je le rappelle, une fois encore, plus de 8 ans. On se retrouve prochainement pour d'autres émissions. Vous avez le Weekly News qui sort tous les mardis, vers 14h en début d'après-midi en général, et puis le Comics Weekly qui reprend toutes les sorties VO de la semaine, enfin toutes, non pas toutes, une sélection, hein, si on devait tout
lire. Non, on n'est pas fous non plus.
Les émissions sont déjà bien assez longues comme ça.
Voilà,
ça
oui.
Donc, bon, parfois on tourne autour d'une quinzaine de comics, c'est même souvent d'ailleurs.
Ou vingtaine même, tu veux dire.
Ouais, même
parce que généralement on avait dit 15 la limite et genre, en fait on en fait 20. Mais...
oui, on avait aussi dit des podcasts de 30 minutes et...
Mais on est des boulémiques, c'est sous, on est des boulémiques du comics. Donc le Weekly News, le Comics Weekly, pardon, je me mélange, le Comics Weekly qui sort tous les samedis matins aux alentours de 8h, qui vous permet de découvrir ce qui est sorti de bon ou de moins bon cette semaine. Et puis bien sûr le Comic City, le mensuel qui reprend les sorties VF, nos coups de cœur du mois, de ce qui est sorti en VF. Et puis d'autres spéciaux à venir prochainement. On vous réserve encore quelques surprises pour la fin de l'année. Bien sûr, vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter, @comicity, sur Facebook, et bien évidemment sur le site www.comicity.fr. Messieurs, ça a été un vrai plaisir de parler de Brian Michael Bendis avec vous, et je m'en vais
comme
de
quoi,
ce
hein,
pas
tout est possible.
Me raser le crâne pour ressembler à mon nouvelle idole. Non, je déconne. Ça va pas ou quoi? Avec mes 12 km de cheveux, là.
Mais moi, j'aime mes cheveux, donc non.
Donc Bunny, il va le faire.
Non. Bizarrement, non.
Personne ne veut ressembler à Brian Michael Bendis.
C'est dommage.
À très bientôt, tout le monde.
À bientôt.
Allez, casse-toi, Bendis.